Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mouzima, locataire oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bon début de semaine en compagnie de la fréquence de la paix Radio Capi qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Le député Gary Sakata a déposé une proposition de loi pour lutter contre le tribalisme en RDC. Il serait notamment question de l'insertion de l'infraction d'outrage à la tribu d'abus des pouvoirs tribal par l'interdiction de nommer désormais un ressortissant de sa province comme directeur des cabinets à tous les postes politiques, la dissolution de toutes les associations à caractère tribal, la création d'un organisme chargé de l'éducation anti-discrimination. Notons également que la question de l'exacerbation du tribalisme dans les médias privés et les réseaux sociaux a été évoquée lors du Conseil des ministres de la semaine dernière. Quel pourrait être, d'après vous, le mécanisme efficace pour faire face à cette situation? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine mis en onde par Paul Badjanyama, Piero Elameji. C'est un réel plaisir pour moi de vous la présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Piero Elameji.
Et nous avons associé à cet échange professeur Emmanuel Banuessizé qui intervient directement à partir de Lubumbashi. Professeur Banuessizé, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Piero Elameji et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Alors, vous êtes sociologue, vous êtes philosophe. Où est-ce qu'on peut classer les actes, par exemple, de tribalisme? On les classe dans quelle catégorie d'actes sur les plans sociologiques?
Alors, je crois que sur les plans sociologiques, mais également sur les plans purement philosophiques, les actes de tribalisme comme les actes d'ethnicisme sont à classer dans la catégorie des actes de racisme, clairement. Et cela doit être clairement dit, que aussi bien les termes ethnie, en fait, a dû donner en français ethnos, race. Et donc les tribalismes, l'ethnicisme sont des formes, je vais dire, dégradées du racisme. Et des points de vue-là, ils doivent être considéré comme tel et réprimé comme tel. Autant on réprime les racismes qui se focalisent sur l'épiderme, sur la couleur de la peau pour discriminer les gens, pour les différencier et les écarter parfois de la gestion de la chose publique. Il faut considérer aussi qu'il y a un racisme dont le référent n'est plus seulement la couleur de la peau, mais également l'appartenance à l'ethnie, l'appartenance à la tribu, qui deviennent des lignes de démarcation à partir desquelles on discrimine, on distingue et on peut même tuer des êtres humains. Et donc, je pense, de mon point de vue, qu'il faut les classer dans cette catégorie de racisme.
Alors, est-ce que cela est inhérent?
Oui. Évidemment, il s'agit évidemment d'un racisme culturel.
Est-ce que cela est inhérent à la vie de l'homme dans sa nature, ou bien ça se manifeste avec certains facteurs extérieurs qui peuvent soit provoquer cela, soit amener l'homme à ce regard, à cette considération?
Bon, alors, il faut considérer que les sentiments d'appartenance est inhérent à tout être humain. Il est naturel chez tous les êtres humains de se revendiquer de telle ou telle autre appartenance. Appartenance linguistique, appartenance religieuse, appartenance culturelle, et appartenance politique. Donc, c'est une des choses auxquelles l'homme est intimement lié. Mais, sauf que l'usage qu'on peut faire de ces appartenances-là, l'instrumentalisation qu'on peut faire des identités ou des appartenances tribales ou ethniques peuvent conduire justement à des actes répréhensibles au sein d'une république. Dès lors qu'on sait que la république se fonde sur trois idéaux. D'abord, le fait de partager en commun la liberté dans la cité, le fait également de dire qu'on a le même droit et les mêmes devoirs au sein de la cité, et le fait qu'on doit se soumettre tous de la même façon aux lois que l'on a établies et que on s'est donné soi-même pour vivre ensemble au sein de la cité. Donc, l'instrumentalisation de ces identités, de ces appartenances tribales ou ethniques, peut conduire justement à des dérives, et notamment dans le champ politique ou dans le champ sociopolitique, jusqu'à des crimes. On l'a vu par exemple au Rwanda, où il y a eu un génocide, à partir précisément de l'instrumentalisation des appartenances ethniques. On l'a vu aussi en Centrafrique, où l'appartenance religieuse et ethnique a conduit à des dérives. Nous avons déjà eu des crimes comme ça dans les Kivu également, à partir des instrumentalisations de toutes ces appartenances-là. Et on doit rapidement, je pense, comme vous l'avez dit en introduisant votre émission, on doit pouvoir penser une loi justement qui réprime ces dérives-là, qui réprime ces genres de racisme, quoi, mais qui sont des, comme je l'ai dit, qui sont des formes de racisme culturel et qui sont dangereux pour l'unité du pays et même pour la République elle-même.
Alors, on va revenir à vous parce que il y a cette question de où les auditeurs reviennent beaucoup, les internautes sont revenus sur le mécanisme hein, qu'il faut mettre en place, et ça doit partir quoi? Est-ce qu'il faut seulement la loi? Est-ce qu'il faut les systèmes éducatifs? Alors, nous allons revenir là-dessus, le temps d'écouter les auditeurs, parce qu'ils sont nombreux qui veulent bien s'exprimer sur cette question. Louis, vous nous appelez de Kananga, au Kasaï Central. Bonjour Louis. Louis, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, des petits soucis des lignes avec Louis qui est à Kananga. Emmanuel est à Goma. Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous écoute, Emmanuel. Qu'est-ce qui doit être fait autour de cette question?
Oui, comme le professeur venait de le dire, je pensais que la loi Sakata pour le tribalisme aura des difficultés d'insuffisance matérielle. Parce que le professeur vient de le dire, il y a un racisme culturel qui évoque un aspect immatériel, un aspect spirituel aussi. Alors, on ne saura pas mesurer réellement. C'est le tribalisme. J'évoque le cas, par exemple, du Nord Kivu. Quand nous sommes à Kinshasa, on parle de Baswahili. Mais arrivé à Goma, au Nord Kivu, on parle de Banyama, des Bahutu, des Bahunde, mais quand on va dans le coin des bananes par exemple, on trouve il y a les bananes de Kaina, c'est illimité. Mais jusque-là, dans les pages, on va voir les monades de X, de Y, la famille de X, de Y, donc c'est un problème illimité. Alors je pense qu'il faut donner à ces esprits faibles, à ceux qui pensent au tribalisme comme force, le temps pour être corrigé par les conséquences. Les conséquences du tribalisme peuvent les corriger, parce qu'on a vu dans l'histoire, on a étudié en Europe avec la race supérieure Hitler. Aujourd'hui, ils découvrent qu'ils sont fermés. Le tribalisme ferme les gens, ferme le développement. Et nous savons tous qu'avec le tribalisme, ça limite le pouvoir du gérant, du gestionnaire ou du dirigeant. Alors, avec ces conséquences, le tribalisme va finir. Je pense qu'il faut donner le temps au temps et donner le temps aux esprits faibles pour qu'ils puissent subir les conséquences du tribalisme. Sinon, la loi n'aura pas vraiment trop d'impact du fait qu'il n'y a pas d'éléments matériels pour punir ces esprits faibles. Voilà un peu une réflexion que je partage avec le professeur qui nous présente cette thématique.
Merci beaucoup Emmanuel, c'est très très intéressant ce que vous avez dit. Alors nous allons maintenant écouter Louis qui nous appelle de Kananga au Kasaï Central. Bonjour Louis.
Oui, bonjour.
Alors on vous écoute Louis.
Bon, tout d'abord je dois remercier la Radio Capi pour cette belle initiative, et je dois encore saluer l'initiative de l'honorable Gary Sakata pour sa proposition de loi qui est de lutter contre le tribalisme en RDC. À mon humble avis, cette initiative fait les lots sur les réseaux sociaux, nous le vivons tous les jours. Mais la vraie réalité des choses, c'est ça se passe dans nos vies. dans le milieu, lorsque nous partons à Lubumbashi, lorsque nous partons à Kinshasa, il y a toujours le tribalisme. Ça se passe partout. Et cette loi n'est pas une mauvaise chose, mais ce qui va poser problème, c'est l'application qui va poser problème. Alors, car cette question a été réglée par la Constitution qui a supplé que chaque Congolais et Congolaise a droit de circuler librement sur l'étendue de la RDC. Car on estime que le tribalisme, c'est l'un des obstacles majeurs qui bloque vraiment le développement de notre pays. A-t-elle aussi que c'est notre objet de plusieurs conflits, ça évoque beaucoup de conflits sur le plan social, culturel, intellectuel que politique.
Alors, pour vous, Louis, on doit commencer par quel doit être le mécanisme, comme on disait tout à l'heure, on doit faire quoi exactement pour résoudre cette question?
Merci beaucoup pour la question. Pour moi, d'abord, il faut l'implication des politiciens, parce que ce sont eux qui sont à la base de toutes les antivaleurs qui sont réunies aujourd'hui dans le tribalisme.
L'implication des politiciens. Merci beaucoup à Louis et merci à Emmanuel. On revient à vous, professeur Emmanuel Banoué-Cizé. Vous avez suivi les deux premiers compatriotes. Ce que Louis vient de dire tout à l'heure par rapport à l'implication des politiques, hein, cela revient presque sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Tout le monde accuse les politiciens. Comment les gens tous arrivent-ils à accuser les politiciens dans cette question d'exacerbation de l'exclusion ou de tribalisme, professeur?
Alors, j'ai suivi tout à l'heure les deux interventions. Je voulais d'abord revenir sur la première intervention du compatriote qui est à Goma. Le constat qu'il fait est réel, effectivement. On voit cette bipolarisation de la vie politique. Lorsqu'on est à Kinshasa, on va parler des Baswahili, on va parler des Baluba, ou on va parler des Bangala, ou on va parler des Bakongo. Ou quand on est à l'Est, on parlera la même chose, on va dire il est Mukongo, il est Mungala. Et ça, c'est tout à fait vrai. Et quand on rentre au niveau micro, au niveau des provinces, évidemment, on voit revenir cette diffraction en plusieurs tribus, en plusieurs ethnies qui sont stigmatisées de telle ou telle autre manière. Cela est tout à fait réel. Mais sauf que je ne partage pas son point de vue quand il dit qu'il n'y a pas d'éléments matériels qui permettraient d'identifier effectivement des actes répréhensibles du tribalisme ou de l'ethnicisme. Non, il y en aura dans tous les cas. Parce qu'il s'agit des discours qui sont énoncés, il s'agit également des pratiques dans l'espace public. Donc on peut avoir des éléments matériels sur lesquels les spécialistes du droit peuvent se fonder pour formaliser des lois, pour légiférer. Donc de ce point de vue, on va y revenir tout à l'heure. Alors, s'agissant de l'implication des politiques, bon, disons globalement que lorsqu'on regarde sur le plan sociologique comment se dessine dans notre société la question du tribalisme et la question de l'ethnicisme, on a tendance à penser que ce ne sont pas les citoyens vraiment ordinaires qui instrumentalisent ces questions-là des tribus. Ils sont plutôt des victimes de l'instrumentalisation des acteurs politiques et même, je vais dire globalement, de l'élite dirigeante ou de l'élite globalement de la société, qui pour des raisons de positionnement ou des raisons d'enjeux autour de la cristallisation de la conquête et de la conservation du pouvoir, pratiquement mobilisent leur communauté, leurs ethnies, et les impliquent dans le champ public, dans le champ politique, pour s'en servir comme des supports dans le processus de conquête et de conservation du pouvoir. C'est à ce niveau-là qu'on va intervenir souvent les élites. Parce que on peut voir que dans nos villages, dans nos quartiers, des gens parfois s'acceptent et vivent ensemble et sans même savoir si tel ou tel autre vient de telle tribu ou de telle autre province. Mais c'est quand il y a des enjeux politiques, des enjeux électoraux notamment, qu'on voit effectivement l'élite dirigeante et même les intellectuels, les universitaires, précisément revenir sur cette question de l'ethnie, la question de l'ethnie, et même de théoriser cela, et de faire comprendre aux citoyens qu'ils doivent se penser d'abord comme des citoyens tribaux plutôt que de se penser comme des citoyens républicains. Et lorsqu'on fait cette bipolarité entre le citoyen tribal et le citoyen républicain, finalement, l'individu a tendance à s'affirmer d'abord comme un agent de la tribu, un agent de l'ethnie, et qu'il peut être tel que si il est reconnu par sa tribu, alors qu'il devrait aussi être reconnu par la cité globale de la République. Et c'est à ce niveau-là que se trouve justement, je crois, la responsabilité de l'élite politique et de l'élite intellectuelle globalement dans notre société.
Alors, parce que nous avons parlé de la loi tout à l'heure, quand je regarde les échanges des internautes sur la page Facebook, il y en a aussi qui estiment que la loi elle-même ne peut pas avoir une grande efficacité s'il n'y a pas d'abord un changement, c'est-à-dire qu'une compréhension. Il faut qu'on arrive à avoir des programmes qui permettent aux gens de comprendre l'acceptation de l'autre pour que la loi soit vraiment efficace.
Mais naturellement, vous avez dit tout à l'heure que j'étais philosophe et vous avez raison. Bon, enfin, Aristote disait Tite à Nicomaque que c'est la société qui doit éduquer les citoyens. L'individu est un animal politique, l'homme est un animal politique, au double sens du terme politique. D'abord au sens de politique signifie polis, c'est-à-dire il est fait pour vivre en communauté, dans la cité, et il ne peut pas ne pas vivre dans la cité. Et pour cela, il faut qu'il soit éduqué. Parce que quand il arrive, il trouve déjà des valeurs. Et il est moulé de par ces valeurs-là pour devenir un citoyen dans la cité qui vit avec les autres et qui accepte les autres. Ça, c'est le premier point. Mais l'homme est aussi un animal politique au sens de politéia, c'est-à-dire au sens où il s'agit d'un citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte de vivre librement avec les autres, au sein de la République, au sein de la cité, en observant scrupuleusement les lois que les gens se sont données eux-mêmes. Donc il s'agit de se soumettre aussi aux lois de la République, et se soumettre aux lois de la communauté, qui fait que sans elles, il n'y a pas de vie en communauté, il n'y a pas de République. Et là, de ce point de vue-là, il s'agit donc de se fonder sur des leviers. D'un côté, il y a l'éducation, donc on doit véritablement éduquer les citoyens à se savoir et à vivre comme membre de la communauté républicaine, une communauté historique, mais qui est une communauté républicaine. Mais on doit aussi les éduquer par la loi, à se soumettre à la loi, à ne pas hypostasier les communautés ethniques et tribales, à ne pas mettre ces communautés au-dessus de loi, mais à considérer que l'individu doit obéir aux lois que la société s'est données. Alors, de ce point de vue, il y a eu déjà des tentatives dans notre société effectivement, de vouloir faire en sorte que l'on éduque les citoyens. On avait créé un ministère à l'époque de la Deuxième République, il y avait un ministère de l'éducation civique et patriotique. Bon, puis après, les gens ont dénoncé ça en disant que c'était associé au mouboutisme, c'était associé au totalitarisme, mais à tort. Puis, sous le régime du président Joseph Kabila, on a créé le ministère de l'éducation à la nouvelle citoyenneté, parce qu'il faut éduquer les gens à la citoyenneté, comment vivre ensemble comme citoyens, non pas comme des citoyens tribaux, mais comme des citoyens républicains. Malheureusement, ce ministère avait été remis à un propagandiste du parti au pouvoir qui a passé plus de temps plutôt à verser dans la propagande et donc du coup à ne rien faire du tout pour véritablement mettre en place des structures qui puissent dès le bas âge, amener les enfants à s'ouvrir aux autres, à comprendre qu'ils appartiennent à la République et que cette République-là est composée d'une multitude de citoyens appartenant à des langues diverses, appartenant à des cultures diverses. Donc, il faut, me semble-t-il, que l'État repense cette question de l'éducation à la citoyenneté pour qu'on puisse apprendre aux gens à vivre ensemble dans la cité, dans la communauté, au-delà de leurs différences ethniques, de leurs différences linguistiques, de leurs différences, je ne sais pas, politiques. Bon, ça doit être fait des points de vue-là. Et en mettant l'accent sur les dangers, parce que finalement, pour appréhender la nécessité de repenser la nouvelle citoyenneté, il faut mettre aussi en place une éducation qui mette en place les dérives et les dangers que nous courons en tant que République et en tant que communauté historique, de banaliser les discours tribaux, de banaliser les comportements tribaux. Et je l'avais déjà indiqué dans un texte que j'ai publié à Paris, mais également dans la revue Congo-Afrique, que Ce qu'on doit faire aussi rapidement, j'ai entendu évoquer la loi Sakata, je crois, vous avez indiqué, je ne sais pas, la loi contre les tribalistes. Bon, je crois que ce qu'on doit faire aussi rapidement, c'est qu'on devrait édicter sérieusement une loi qui interdise, par exemple, aux députés nationaux, aux sénateurs ou à tous qui ont des charges publiques d'avoir des membres de la parenté comme des suppléants directement, ne serait-ce que pour moraliser la vie publique et d'éviter la construction d'une oligarchie fondée sur la puissance de la famille et de l'argent. On devrait clairement le dire dans une loi que tout celui qui postule comme candidat à un poste de député, de sénateur, de gouverneur ou je ne sais pas, de tel ou tel truc, ne devrait pas voir directement comme suppléant un membre de la famille ou un membre de la parenté. Et qu'il faut que cela soit diversifié. Il faut que cela soit diversifié pour amener à ce que, par exemple, quelqu'un qui serait du Kivu, comme moi, puisse travailler avec quelqu'un du Bas-Congo, quelqu'un du Kasaï oriental ou du Kasaï occidental ou de l'Équateur. Et que celui de l'Équateur aussi travaille avec quelqu'un du Kivu. Et dès lors qu'une loi imposerait cela aux députés, bon, ce ne serait plus possible pour cette législature, mais la législature qui va suivre, on peut modifier la loi pour interdire cela. Parce qu'on peut voir, par exemple, que 80% de nos députés, comme de nos sénateurs, ont comme suppléants, sinon leurs femmes, en tout cas leurs enfants ou les membres de leur famille directement. Ce qui fait que finalement, c'est l'image qu'ils donnent en tant que représentants du peuple. C'est qu'ils se disent, il faut privilégier d'abord la famille, il faut privilégier la tribu et l'ethnie. Et chacun y va à sa façon et à la fin, ça s'institue. Et on peut avoir là des actes matériels qui permettent d'instituer cette infraction-là. Et donc voilà. On peut, me semble-t-il, faire ça. Mais on peut constater aussi qu'il y a un autre défaut de tribalisme et de l'ethnicisme je viens de l'indiquer, c'est qu'il y a d'abord cette question de la construction sur le plan national d'une oligarchie fondée sur la parenté, mais il y a finalement une conception erronée de la politique, de la gestion même de la chose publique. On a tendance à penser chez nous qu'un pouvoir n'est légitime que si le pouvoir est organisé de telle sorte que chaque tribu, chaque ethnie soit représentée dans les institutions. Bon, cela conduit finalement à quoi? Finalement, ça conduit à hypostasier l'homme tribal plutôt que l'homme citoyen, l'homme républicain. Parce que chacun est censé alors rentrer d'abord dans sa tribu, être reconnu par sa tribu, et lorsqu'on lui donne un poste, on a l'impression qu'on l'a donné à la tribu.
Oui.
Et quand il commet des erreurs et qu'on cherche à les punir, des actes répréhensibles par la loi, et qu'on cherche à les punir, on a tendance à l'interpréter comme une punition infligée à sa communauté culturelle, sa communauté ethnique. Alors qu'il a agi seul en tant qu'individu libre.
Voilà.
Il doit s'assumer en tant qu'individu libre pour ses actes et on ne doit pas penser que c'est la communauté qui a été visée.
Voilà.
Ou bien quand on donne un poste à quelqu'un, on l'a donné à la communauté et quand on le retire à l'individu, c'est comme si on a retiré le poste à la communauté. Tout cela fragilise finalement l'unité nationale et fait émerger des leaders politiques tribaux. Et on sait les dangers, on peut voir maintenant les dangers de l'émergence de ces leaders tribaux partout, que ce soit au Kivu, que ce soit au Katanga, ou dans le Kasaï, ou dans le Bandundu. Vous connaissez les figures funestes vraiment qui sont des acteurs tribaux et qui ne peuvent jamais, qui n'ont aucune idée de la construction d'une nation et qui instrumentalisent véritablement les tribus là où ils sont, que ce soit au Kivu ou ailleurs, pour tenter d'avoir des négociations pour qu'ils reviennent au pouvoir en prétendant agir au nom de leur tribu, alors qu'ils n'agissent pas au nom de leur tribu
alors,
et au nom de leur communauté.
Voilà.
Là, je pense pour moi qu'il y a l'éducation et la loi qui doivent gérer
cela. Alors,
et là, le politique peut véritablement relancer la question des ministères de la nouvelle citoyenneté. En lui donnant une feuille de route exactement de ce qu'il doit faire. Malheureusement, on met des gens parfois qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire.
Ce qu'ils doivent être faits,
penser nation et qui sont là pour penser tribu.
Voilà. Alors, professeur, on va écouter. Voilà, on va écouter Ali qui est à Kalemi et trésor à Lubumbashi. Merci d'être avec nous dans cette échange. Je rappelle encore que la question de la lutte contre les tribalismes en plein parole aux auditeurs en ce moment même sur la fréquence de la paix. Les débats se tiennent également sur la page Facebook. Ali, vous êtes à Kalemi. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour. Ali, vous êtes avec nous, bonjour. On a perdu Ali. Alors, voyons Trésor qui est à Lubumbashi. Bonjour Trésor.
Bonjour, c'est Trésor Moutala depuis Lubumbashi.
Voilà, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait, Trésor, pour résoudre cette question du tribalisme?
Oui, moi, par rapport à cette question du tribalisme, je proposerai quatre points qui pourraient peut-être nous donner quelques solutions. Premièrement, je demanderai à tous les partis politiques de passer à l'éducation civique, parce que la grande masse de la population est parfois militant d'un autre parti politique. Si les partis politiques aideraient les pays à passer à l'éducation civique de chacun de ses membres, facilement ça pourra peut-être nous aider à éradiquer le tribalisme. Deuxièmement, je propose à toutes les émissions, à toutes les chaînes de télévision, de créer un espace d'émission anti-tribalisme plutôt. Si on crée ces espaces d'émission, ça pourra éduquer et les enfants et tout celui qui va suivre ces émissions, ça peut réformer la façon de penser. Troisièmement, je propose de chercher d'enlever la rubrique sur nos fiches d'identité, nos cartes d'identité, notamment la carte d'électeur. Enlever les rubriques village, territoire, chefferie d'origine. On laisse carrément la ville d'origine pour diminuer au moins la vision du tribalisme. Et pour finir, je propose d'oublier ou de refuser à chaque fois il y a des élections des gouverneurs, les élections des municipales, par exemple, des maires de la ville, chercher toujours à voter ou à élire quelqu'un du contraire. Non, non. Facilement, qu'on oublie cela, qu'on cherche à élire celui qui sera capable d'apporter une évolution ou une évolution quelconque à la province soit au pays. C'est ça qui est comme ma contribution.
Merci beaucoup. Les quatre points, c'est très important. Rappelons quand même que tout à l'heure, le professeur avait parlé de la loi. D'ailleurs, il y a la proposition de loi révisant la loi électorale, que ce soit l'initiative du député Lutundula ou l'initiative du groupe des 13 personnalités. Tous ils sont revenus sur cette question des suppléants, des parents, de ceux qui sont proches des candidats. On estime que cela aussi exacerbe cela. Je crois, on va revenir à Ali tout à l'heure et Marie-Paul. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine.
Parole aux auditeurs.
Alors, nous revenons à vous, professeur Emmanuel Boanuessizé. Vous avez suivi, quand je regarde encore le débat sur la page Facebook, beaucoup d'auditeurs reviennent aussi sur cette question de la carte d'identité avec, par exemple, la référence des territoires d'origine, village d'origine. Ils estiment que c'est pas bon parce que cela aussi permet aux gens, quand quelqu'un remplit son dossier pour aller peut-être chercher l'emploi ou bien pour quelque chose, on les juge en fonction des éléments sur sa carte d'électeur. Il y en a aussi qui estiment que les élections n'ont pas obligé que, par exemple, le gouverneur soit seulement originaire de la province. Dans les temps où on les nommait, on les permettait. Mais avec les élections, chacun croit qu'il peut aller postuler dans sa province. Est-ce que ce sont aussi les éléments sur lesquels on peut tabler aujourd'hui? C'est un souhait exprimé par beaucoup de personnes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Bon, alors, la question d'alléger certains éléments superflus sur la carte d'identité, qui n'existait pas, avait déjà été évoqué depuis l'époque de Mobutu et puis sous le régime de Joseph Kabila. Mais vous savez que cette question a toujours été sujet de pomme de discorde à partir de la question, je vais dire, de la question ethnique telle qu'elle se pose au Kivu, malheureusement. Parce que on a toujours tendance à penser que si on allège ces éléments-là, il y a des gens qui ne seraient pas d'origine congolaise, qui en profiteraient pour se dissoudre dans la communauté historique, dans la cité. Mais en réalité, je crois qu'on a déjà dépassé quand même la question des citoyens d'origine rwandaise. On a déjà sérieusement dépassé cette question et dès lors qu'on l'a dépassée, il serait aujourd'hui nécessaire qu'effectivement, je pense, comme c'est dans beaucoup d'autres pays, que l'on puisse penser à alléger, par exemple, sur nos fiches, sur nos identités, des éléments qui permettent de ficher les gens, de les citer selon les ethnies, selon les tribus. Bon, il est compréhensible, par exemple, je vis au Katanga et je suis très heureux au Katanga depuis plus de 20 ans. J'ai fondé une famille là-bas avec une femme d'origine katangaise. J'ai des enfants que nous avons eus avec elle et qui ne peuvent pas te dire qu'ils sont simplement kibboutiens ou qu'ils sont seulement kataïs, encore que ma belle-mère est du Kataï. Donc mes enfants peuvent aussi te dire originaires du Kataï, originaires du Katanga, originaires du Kivu. Bon, je ne vois pas pourquoi on interdirait, par exemple, à des enfants qui sont nés au Katanga de ne pas revendiquer leur appartenance au Katanga ou au Kasai ou au Kivu. Donc, je pense qu'on peut alléger ces éléments-là. Mais, comme je l'ai dit, il est nécessaire aussi, me semble-t-il, que lors des échéances électorales, par exemple, on puisse clairement, ça a été fait dans certains pays, on peut s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs, comme en France ou dans d'autres pays, parce que nous sommes quand même dans le monde et nous ne sommes pas une monade fermée sur nous-mêmes. Pour dire que, par exemple, un élu, provincial ou un élu national, ne devrait pas avoir directement comme suppléant le membre de sa famille, encore que c'est biaisé, la façon de s'organiser, par exemple, pour un député, de ne pas déclarer ce suppléant. Et puis, après quelques mois, il démissionne, il laisse quelqu'un que la population ne connaît pas et à qui la population n'a jamais fait confiance. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent être révisitées au niveau de la loi. Mais on peut aussi chercher à lister. Maintenant, il est possible, évidemment, d'interdire, mettons, par exemple, à des gens qui sont dans telle ou telle autre province et qui sont nés là-bas, de ne pas postuler à des postes publics, que ce soit au niveau politique, au niveau des entreprises, au niveau des institutions universitaires. C'est précisément ces éléments-là qui constitueraient des charges matérielles à mettre en avant pour montrer qu'il y a une discrimination sur base de l'appartenance ethnique ou tribale, et qui constituerait ce que j'appelle le racisme culturel, et qui est répréhensible partout, autant il est répréhensible en Europe, autant il doit l'être chez nous. Il faut qu'on arrête de voir seulement le racisme des autres. Il faut aussi voir et affronter le racisme que nous pratiquons envers nos propres concitoyens, et que nous avons banalisé, par exemple. Lorsqu'on dit, excusez-moi de le répéter en swahili ou en lingala, lorsqu'on dit, bon, moi, ba swahili, moi, ba luba, amouye pour gérer le pouvoir. En fait, il s'agit là, en fait, de la banalisation du racisme culturel. On stigmatise les gens et on les enferme dans des cases à partir de. On ne peut pas interdire, évidemment, à une personne d'appartenir à une tribu ou à une ethnie. Cela est aussi historique, cela est aussi sociologique. Mais il est interdit de typer les gens, de les enfermer dans les cases et de les traiter comme tels, jusqu'à les discriminer, jusqu'à les exclure de la gestion de la chose publique au seul motif qu'ils sont de telle ou telle autre ethnie ou de telle autre ère linguistique.
Alors,
pense qu'il est nécessaire à ce niveau. Allô?
Oui, alors, professeur, si vous avez suivi à l'introduction, d'ailleurs, on se rappellera que quand Mouzé est arrivé, Mouzé Laurent Désiré Kabila, il avait interdit le fonctionnement de mutualité. Aujourd'hui, c'est revenu. Et d'ailleurs, les députés proposent qu'on ait aussi une dissolution de toutes les associations à caractère tribal. Mouzé avait déjà estimé qu'avec toutes les mutualités des ressortissants de ceci, cela aussi était en train de créer ces cloisonnements dans lesquels les gens se retrouvaient. Mais aujourd'hui, les mutualités sont revenues, même quand d'une manière... formel, c'est pas interdit par la loi. Et lui, il propose que dans la loi, il faut insérer exactement la dissolution des mutualités, des associations à caractère tribal.
Oui, sauf qu'à l'époque, Mouzé Laurent Désiré Kabila avait été dénoncé, alors que c'était tout à fait, il apercevait déjà un danger. Et vous savez, par exemple, que dans la province, dans la seule province orientale et dans la province du Kivu, notamment, il y a eu beaucoup de violences suite à ces causées, notamment par l'instrumentalisation des identités ethniques à travers les mutualités qui sont nées, que ce soit dans les territoires de Masisi, que ce soit dans les territoires de Kabare, de Walungu, de Fizi, et même du côté de Rutshuru. En fait, on sait que dans les années 90, il suffit de revisiter l'histoire. C'est avec la multiplication de ces mutualités tribales ethniques qui sont nés des violences dans les Kivu et même dans la province orientale, bon, d'une certaine manière aussi dans la province du du Katanga. Et or, on peut remarquer aujourd'hui la rémanence de ces mutualités. Il y a plus, j'ai entendu, par exemple, récemment, la naissance des mutualités dans les Massissi, dans les Beni, dans les Rutshuru, dans les territoires des Kabare et des Walungu. Donc, la multiplication de ces mutualités à caractère ethnique et tribal peuvent constituer à nouveau des foyers de violence. Et d'ailleurs, je pense que l'une des clés pour aussi comprendre la perdurance des violences dans les Kivu et dans les provinces de l'Est, c'est notamment cette question des mutualités qu'on n'a pas réussi à résoudre. Mm-hmm. Je ne comprends pas sérieusement pourquoi le président de la République successif estime qu'il est obligatoire, il est nécessaire lorsqu'ils arrivent dans une province de recevoir ce qu'on appelle, je ne sais pas, le président de mutuelle tribale et de discuter avec eux à leur donner une place centrale dans le champ politique. C'est-à-dire que finalement chez nous, et c'est aussi l'une des failles de notre constitution, c'est qu'on a réussi à transformer la catégorie tribale, la catégorie ethnique en une catégorie politique. Mmh. On a aménagé un espace où on pense que les tribus, les ethnies peuvent devenir des acteurs politiques. Et en leur accordant cette place-là, on a construit une ethno-démocratie, c'est-à-dire une démocratie qui, tout en se conformant aux principes de la séparation du pouvoir, aux principes au principe de loi, aménage ou s'accommode avec des réalités tribales qui permettent de désigner certains, ce qu'on appelle les notabilités, on ne sait comment ils deviennent des notables parfois, pour leur donner des responsabilités prétendument au nom de leur communauté pour essayer un peu de rééquilibrer le partage du pouvoir et de gérer les conflits interethniques. Donc en faisant de cette catégorie tribale une catégorie politique, nous avons faussé les jeux. Et il faut repenser tout cela. Et finalement, vous voyez que 10 ans après avoir, ou 20 ans après avoir voté cette constitution-là, presque 20 ans, nous sommes à la porte des dislocations de l'unité nationale. Nous sommes en train de nous interroger si le pays va survivre, si la République va survivre à des revendications tribales, à des revendications indépendantistes sous couvert des revendications.
Il y a deux auditeurs encore, professeur, permettez. Il y a Marie-Paul qui est à Kisangani, John qui est à Isiro. Marie-Paul, merci d'être avec nous dans cet échange. Bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à votre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute Marie-Paul.
Oui monsieur le journaliste, il faut dire que la proposition de l'honorable Sakata est louable et mérite d'être examinée par les parlementaires congolais parce que lorsque vous voyez comment les choses sont présentées, il y a des soucis par rapport à l'analyse sémantique et étymologique des mots qu'on appelle le tribalisme. Et monsieur le journaliste, avant que cette proposition soit examinée au niveau du Parlement, il faut dire que cette notion-là de tribalisme en RDC mérite également des élucidations sociologiques et aussi juridiques parce que nous savons que la RDC, c'est un pays qui regorge plus de 450 ethnies. Alors, je me pose cette question. Dans l'entendement de la proposition de l'honorable, je ne vois pas quelle est cette tribu-là qui a le dessus sur les autres tribus. Si la reine des pouvoirs, ça pose déjà problème à ce niveau-là, à ce qui concerne ces mots, tribalisme. Et aussi, monsieur le journaliste, comme vous le savez bien, que toutes ces valeurs-là négatives, dans l'hypothèse que ces valeurs-là sont justement ce qui se passe dans notre pays et qu'il y a les tribalismes, il faut noter que toutes ces valeurs négatives contribuent au sous-développement de la RDC. Parce que vous savez que lorsque les gens vont se réunir tout autour de leur tribu, je pense qu'ils sont limités aussi bien par les ressources mentales, par les ressources justement économiques. D'autant plus que nous le savons, lorsqu'il y a une pluralité des cultures, il y a une pluralité justement de gens, il y a quand même ce qu'on appelle choc d'idées, c'est choc d'idées qui permet justement au développement. Et aussi, vous savez, monsieur le journaliste, dans notre constitution, il y a quand même une certaine liberté qui est consentie à ces gens. Je ne pense pas que si nous voulons régler la chose, nous puissions plutôt beaucoup plus attaquer par rapport aux tribus déjà parce que tout le monde a ne plus qu'un tribu. Mais ce qu'il faut attaquer, c'est tout simplement des vices totales liées à des pratiques à favoriser les leurs au détriment des autres, alors que nous sommes tous Congolais. Par cette appartenance nationale, nous devons faire des choses de manière que les pays avancent, parce que même il y a des tribus qui n'ont pas assez d'énergie, il y a des tribus qui n'ont pas assez d'intellectuels. Mais si nous allons dans l'hypothèse que nous allons mettre au chef des gouvernants, c'est qu'il soit des tribalismes que je suis en train de douter, parce que si nous analysons, ce concept-là a été appliqué dans la civilisation romaine. Et ici, dans le cas de la RDC, je pense qu'on peut plutôt parler de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment le tribalisme, il y a plutôt l'ethnocentrisme dans les chefs de gouvernance que nous voyons, dans la manière de recruter les gens dans des bureaux, aussi bien dans des cabinets. Et monsieur le journaliste, moi je propose que ce qu'il faut maintenant pour lutter contre tous ces mouvements, je ne peux pas aller dans les constitutionnalités, parce que la constitution a donné la liberté déjà de s'associer par rapport à leur obédience et à leurs objectifs. Mais ce qu'il faut, c'est plutôt de traquer tout mouvement qui est de nature à favoriser, parce que même dans les associations, je ne vois pas une association constituée justement d'une tribu. Non, je ne vois pas. Mais ce qu'il faut, c'est d'attaquer toutes les dérives qui ont élu domicile dans nos associations, dans nos groupements.
En fait, Marie-Paul, vous estimez que, comme la Constitution permet à chacun de pouvoir s'associer, c'est-à-dire que le droit à l'association est garanti par la Constitution, mais la Constitution elle-même dit qu'il faut que cela puisse être dans le respect des lois. Pour vous, c'est pas interdit que les gens puissent s'associer, quelles que soient leurs tribus, mais le plus grand problème, c'est de lutter contre les antivaleurs, contre l'exclusion, l'ethnocentrisme pour vous dans les recrutements, parce que c'est cela qui provoque plutôt des frustrations qui sont à la base des tensions et de toute autre chose. Merci beaucoup, Marie-Paul. John, vous êtes à Isiro. Bonjour, John.
Bonjour, Sergier. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, John.
Merci pour m'accorder la parole. Vraiment, ça fait la honte de notre pays de parler de tribalisme aujourd'hui, parce que ce n'est pas de notre volonté comme population de parler de ça. C'est plutôt de la politique qui parle de tribalisme aujourd'hui. Le problème qui est là, Sergio, c'est le problème de d'abord commencer par sensibiliser la population. Au lieu de proposer maintenant la loi, il faut d'abord sensibiliser la population sur qu'est-ce que le tribalisme, parce qu'on en parle aujourd'hui. Maintenant, la politique cherche à créer des problèmes pour maintenant diviser le Congo en disant que non, il y a un problème de tribalisme. À moi seul, je ne vois pas le problème de tribalisme. Les politiciens qui parlent aujourd'hui de tribalisme là, s'ils parlent de tribalisme aujourd'hui, maintenant, leur parti politique, c'est à travers tout le pays, c'est à travers l'étendue du territoire national. Maintenant, quand vous parlez de chez nous, au moment que vous avez des partis politiques, vous avez aussi déjà partout là, il y a des représentations au niveau national, au niveau provincial. Maintenant, parler de tribalisme à ce niveau-là, moi, j'ai doute de ça, parce que maintenant, il faut quand même qu'on puisse réfléchir. Ce n'est pas que, il y a maintenant les constatrices qui existent là. Parce qu'il y a des gens qui sont au pouvoir, ils ne veulent pas laisser le pouvoir. C'est ce qui crée maintenant que nous, il faut créer quand même des gens pour qu'ils puissent se soutenir, parce que hier, ça ne va pas. C'est le problème de laisser la place aux autres de travailler. Quelqu'un qui voit que non, je suis dans des commas, il n'y a pas moi que je puisse avoir des popularités, il cherche maintenant ces tribus-là, il parle des tribus pour attirer les gens. Ce n'est pas à ce niveau-là qu'on peut quand même essayer de voir que non, que vous gérez aujourd'hui et que vous n'avez plus des popularités, il faut laisser les places aux autres. Je vous donne un exemple déjà, il est des pommes de joueurs. Il y avait des joueurs, on parlait des poutres, on parlait de qui? Aujourd'hui, on ne parle plus des poutres, on parle plutôt des moulins. Il faut quand même accepter ça comme ça. Et non, nous sommes dans un pays, il faut laisser les autres diriger, il ne faut pas commencer à créer des rois là-bas, parler de tribalisme, à ce niveau-là, vraiment.
Alors pour vous, John, vous estimez que c'est une question de manipulation, notre invité le disait tout à l'heure, il y a des gens qui créent des partis politiques et qui recourent à leur tribu. D'ailleurs, je vais revenir à notre invité tout à l'heure pour commenter cela. Il y a plusieurs fois, un auditeur a dit, mais vous voyez, les partis politiques sont souvent, ont un ancrage majoritaire dans la province du fondateur. C'est ce que vous avez dit, John, tout à l'heure, qu'il y a des gens qui ont des partis qui n'ont pas l'assise nationale, c'est-à-dire que les partis ne peuvent être trouvés que dans le territoire ou dans le village ou dans la province du fondateur. C'est déjà un problème. Et plusieurs fois, d'ailleurs, il y a même un internaute qui a dit Regardez comment nos politiciens font quand ils fondent le parti politique. Son premier voyage, il ne part pas dans une autre province qui est dans la province de dans sa province d'origine. On a cette tendance là. Merci beaucoup John. Nathan, vous êtes en Bandaka. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour Nathan.
Oui, bonjour Gère.
On vous écoute Nathan.
Oui, Gère, merci pour m'avoir accordé la parole. Moi, je pense que cette proposition de l'honorable Gary Sakata, la Constitution de la République démocratique du Congo a déjà prévu ça. Gère, lorsque un pasteur prêche la parole de Dieu, il se réfère de chapitres et de versets bibliques. Et les juristes appliquent notamment la Constitution, d'autres lois du pays et ainsi de suite. Notre loi fondamentale, dans son titre 2, parle des droits humains, des libertés fondamentaux, des devoirs des citoyens et de l'État. Dans son titre 13, je ne ferai plus la lecture au fond du temps, mais lorsque très cher honorable député Gary Sakata, honorablement honoré, dit que les associations de responsables de telle ou telle soient abolies, car c'est là qui amène les tribalistes ou la tribale. Moi, je dirais que cela n'est pas du tout bien. Et c'est faux. Cette discrimination a existé depuis les temps immémoriaux. L'honorable doit savoir que notre État est décentralisé. Et que les leaders, écoutez, et les leaders de chaque entité, province, territoire, secteur, etc., doivent se réunir pour réfléchir de la manière dont ils peuvent développer leur entité. Pour finir, le tribalisme, népotisme et toute autre forme de discrimination, ici il s'agit des problèmes de l'individu congolais, JR. Quant à l'individu congolais, le Congolais doit avoir le respect des lois du pays, la culture d'un bon citoyen du pays. Nous devons avoir l'amour des autres sans distinction, je dirais. Et à côté de l'État, il y a un peu une légèreté là-dessus. Il doit sanctionner sévèrement l'auteur des forfaits. Il n'y a pas de sanction, je dirais. Pour citer, je dirais que jusque-là, les lois de la République démocratique
Alors, pour vous, Nathan, c'est une question d'abord de respect des lois, de respect des principes, et ça passe par l'éducation, ça passe par la culture, vous l'avez dit. Professeur, il y a trois compatriotes qui se sont exprimés. Il y a un internaute aussi qui a posé le problème de création des partis politiques avec leur ancrage dans les provinces d'origine du leader. On commence à réfléchir comme ça. Mais il y a aussi un autre qui a dit le problème de partis politiques avec l'appartenance est parti aussi de la mutation en 1960 de mutualité tribale ou des associations tribales qui ont été transformées directement en partis politiques, ce qui veut dire que le problème aussi a pris un ancrage il y a plusieurs années dans notre société, professeur.
Oui, alors, je crois que comme on l'a dit, vous avez compris que, en fait, la vérité, c'est que le tribalisme et l'ethnicisme existe comme forme de racisme culturel chez nous. Et c'est cela qu'il faut qu'on combatte. L'important, ce n'est pas de les nier, parce que beaucoup sont devenus victimes de ces actes-là. Et l'unité nationale est aujourd'hui menacée par les rémanences des actes tribaux, des discours tribaux, des discours de haine, les uns envers les autres. Alors que nous avons choisi d'être une république, d'être une nation et de vivre dans une communauté historique. Et je pense que de ce point de vue, en synthétisant, on est revenu sur quelque chose qui est commun, c'est qu'il faut continuer à éduquer les citoyens au vivre ensemble, à l'acceptation de l'autre, dans la communauté historique, sans quoi il n'y a pas de république, mais il faut aussi que la loi puisse réprimer des actes, des discours de haine, des discours tribaux, n'est-ce pas, qui tendraient à nuire à l'unité nationale, à vivre ensemble au sein de la République et d'aller dans le sens de sauvegarder l'unité parce que c'est l'un des héritages de notre pays depuis longtemps. Je voilà ce que je pense que je peux dire pour boucler ce débat d'aujourd'hui qui a été un débat très intéressant et il appartient à nos députés de continuer à réfléchir sur comment légiférer pour justement combattre ces formes de racisme culturel qui a eu domicile dans toutes les provinces de la République.
Merci beaucoup, professeur. On vous libère parce que vous avez une activité là. Vous l'avez dit, il faut continuer l'éducation. Alors, on va écouter les deux derniers auditeurs de cette émission pour conclure cet échange qui tient déjà vers la fin. Je rappelle encore que vous pouvez intervenir au 081-890-4969. 081-890-4969.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Je rappelle encore que Parole aux auditeurs se penche aujourd'hui sur la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par les députés nationaux Gary Sakata. C'est sur la question de la gestion de la question liée au tribalisme. Il propose notamment l'insertion de l'infraction d'outrage à la tribu, d'abus de pouvoir tribal par l'interdiction de nommer désormais un ressortissant de sa province comme directeur des cabinets à tous les postes politiques, la dissolution de toutes les associations à caractère tribal, la création d'un organisme chargé de l'éducation anti-discrimination. Notons également que la question de l'exacerbation du tribalisme dans les médias privés et les réseaux sociaux a été évoquée lors du Conseil des ministres de la semaine dernière. Et ici, dans le débat, la question est de savoir quels doivent être les mécanismes efficaces à mettre en place pour mettre fin à cette situation du tribalisme. Alors, c'est ça. Voilà. Alors, Emmanuel est avec nous de Kisangani. Emmanuel, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour, Radio Campier. Bonjour à tous les auditeurs fidèles de l'émission Parole aux auditeurs. À mon avis, la proposition de l'honorable Gary Sakata est bonne, mais le problème majeur reste d'être adopté en tel point que le sujet proposé est l'acte prioritaire soutenu par de grandes personnalités politiques et tant d'autres élus. Nous saluons cette proposition avec intérêt. Parce qu'au Congo, le tribalisme handicape le développement de notre pays. Maintenant, pour promouvoir le l'influence d'une moralité dans le pays et faire appel à l'unité nationale, nous condamnons ce genre de comportement nuisible.
Oui, dans Emmanuel, on vous écoute, oui. Allez-y, oui.
Dans ce cas, la permutation des agents fonctionnaires dans tout secteur public serait une des premières des choses pour réhabiliter les comportements du tribalisme, car ça fait l'objet de plusieurs conflits, beaucoup plus sur le plan social, culturel, politique. Et
oui, allez-y.
Oui, exactement, monsieur. Sur même dans des sites internet, même dans des groupes ou réseaux sociaux, toutes ces associations de caractère tribal soit éradiqué nécessairement.
Merci beaucoup, Emmanuel. Le débat sur, se tient également sur la page Facebook, comme je le disais, Ezekiel Eze Emanes, qui nous écrit des Kamituga, dit ceci: tout d'abord, aucun pays ne peut se développer avec des antivaleurs, et que dans notre pays, nous nous intéressons toujours aux antivaleurs, et nous ignorons l'essentiel. Sur ces, faut toujours éviter de traiter les gens en fonction de leur appartenance tribale. Le même point de vue exprimé aussi par José Chakanda, depuis la ville de Lubumbashi. C'est une bonne proposition de loi, mais le problème passe plus par l'éducation. La question de l'éducation de la population est revenue plusieurs fois. Junior Jackson Bofete, il faudrait une interdiction formelle d'affecter un cadre d'administration publique, notamment chef des divisions, administrateurs du territoire et ses assistants dans leur province d'origine. Il faut interdire de nommer plus de deux personnes de sa tribu au sein de services publics, cabinet de la présidence, des ministères, partout. Alors, il faut la question de la représentativité nationale doit être considérée dans la distribution, parce que tout cela vient aussi du fait qu'il y a des frustrations. Gbandi Didi, qui est à Kisangani, dit aussi qu'il soutient une proposition de loi. Il faut que la loi puisse punir plutôt tous ceux-là qui pensent au tribalisme, mais il fustige aussi le découpage brutal des provinces qui a aussi exacerbé, n'est-ce pas, les questions d'appartenance à sa province d'origine. Alors, voilà le débat qui s'est poursuivi sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission.
Allô? Mais ils ne répondent pas?
Thank you. Merci à Paul Badanyama et Marcel Ngombo pour la production de ce magazine que vous allez retrouver sur www.radiokapi.net. Alors, on se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Nous poursuivons les débats sur la page Facebook et merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. Au revoir.